Alors à nouveau, bonjour à chacun. Nous avons maintenant du livre 1 roi et du livre 2
rois.
Dans la première partie, nous avons vu les chapitres 1 à 11. Qui nous raconte l'histoire du lit du roi Salomon. Nous avons vu sa sagesse, son intelligence, sa gloire, mais malheureusement la fin qui était mauvaise, parce qu'il avait beaucoup de femmes,
les
femmes étrangères idolâtres. Et dans sa vieillesse, il avait commencé de les suivre. Dans la deuxième partie, nous avons vu sa succession. Nous avons vu que son fils
Roboam,
malheureusement, il n'a pas écouté les vieillards qui lui conseillait d'être moins dur avec le peuple. Il a écouté les jeunes gens qui lui conseillaient d'être plus dur.
Et
le résultat, tout le nord s'est rebellé contre lui. Et a commencé un royaume des 10 tribus. Avec Jéroboam qui a été fait roi.
Pardon.
Avec Jéroboam. Lui, Roboam, est resté seulement avec la tribu de Juda et de
Benjamin.
Puis nous avons vu que ce royaume du nord
a
eu plusieurs rois qui étaient mauvais. Jéroboam avait peur que les gens retournent à Jérusalem pour adorer au temple. Alors il a fait deux veaux d'or idolâtres. Il est malheureusement retourné à l'erreur que les Israélites avaient fait dans le désert. Il a fait un veau d'or à Bethel et un veau d'or à Dan dans le nord pour encourager les Israélites à adorer dans ces deux lieux. Et ça, c'était très mauvais naturellement aux yeux de l'Éternel. Il aurait pu avoir une lignée de descendance de rois du royaume du nord. Mais à cause de son idolâtrie, ça n'est pas arrivé. Plusieurs rois ont pris le pouvoir. Et ensuite, nous sommes arrivés au roi mauvais Akab. Ce roi avait épousé une idolâtre de Phénicie, qui est le Liban aujourd'hui, qui adorait
Baal.
Et l'a amené dans la capitale du royaume du nord,
Samarie.
L'idolâtrie à Baal avec un temple. Elle avait 450 prophètes de
Baal.
En plus, elle avait amené l'idolâtrie de Sidon, qui est aussi en Phénicie. Astarté ou les Astorètes.
Et
il y avait aussi 400 prophètes qui étaient là et qui mangeaient à sa table royale. Beaucoup d'idolâtrie. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Il a envoyé des prophètes. Et la femme de Akab, qui s'appelait Jézabel, elle a tué beaucoup de prophètes. mais certains avaient été cachés.
Et
il y avait notamment un prophète qui venait de l'est du Jourdain. C'était Élie. Un des plus grands prophètes de l'histoire du peuple. Il a beaucoup prié pour qu'il ne pleuve plus. Dieu a écouté sa prière. Pendant 3 ans et demi, il n'a plus fait de pluie. Et Dieu l'a caché vers une petite rivière. Et il a envoyé des corbeaux pour lui apporter de la nourriture. Au moment décidé, ensuite, il est revenu vers le roi Akab.
Il lui a dit,
on va se décider maintenant, il faut que le peuple se décide s'il veut suivre Baal ou bien l'Éternel. Il a organisé une rencontre ici à la montagne du Carmel. Il a fait venir les prophètes. Des idoles qui ont préparé un taureau pendant que Élie a aussi préparé un taureau.
Et
il a dit maintenant chacun va prier son Dieu pour qu'il fasse descendre le feu du ciel pour consumer le taureau en holocauste. Les centaines de prophètes de Baal, ils ont supplié le dieu Baal. Ils ont crié, ils ont sauté très fort pendant longtemps. Ça ne marchait pas. Pas de réponse. Élie se moque d'eux. Alors il continue encore plus. Il commence à se faire des trous dans la peau. Des incisions. Qui fait même couler le sang. Mais Baal ne répond toujours. Alors Élie, c'est son tour. Il fait une prière à l'Éternel. Et le feu du ciel descend
tout.
C'était clair pour le peuple. Et les prophètes de Baal sont mis à mort. Suite à cela, la reine Jézabel, qui n'était pas venue, très fâchée, elle veut tuer
Élie.
Alors Élie, il va s'enfuir et faire une grande distance jusqu'à
Beersheba.
Il va continuer jusqu'au Sinaï. Et là, il aura un grand découragement. Il sera à l'endroit où Dieu s'était révélé à Moïse. Et Dieu va l'encourager.
Et
va lui dire maintenant, tu vas oindre pour roi en Syrie Azaël. Tu vas oindre pour roi futur Jéhu. Qui va être plus tard roi en Israël. Et tu vas appeler Élisée à être ton successeur. C'est là que nous sommes restés. Aujourd'hui, nous allons continuer voir la succession des rois du nord, donc du peuple qui se trouvait avec les 10 tribus, le royaume d'Israël. Nous allons voir aussi plusieurs rois du royaume de Juda. Nous allons voir qu'il n'y a pas eu un seul roi qui était vraiment bon dans le nord. L'idolâtrie de Baal va être ôtée. Mais les veaux d'or vont continuer. Et Dieu va déporter le peuple en Assyrie. Le royaume du sud va continuer. Il y aura quelques rois qui vont suivre l'Éternel, comme Joas partiellement, Asa, comme Ézéchias, Josias, quelques bons rois qui ont été
rois.
Mais à la fin, il y aura aussi cette idolâtrie, notamment par un roi qui s'appelle Manassé, fils de
Ézéchias,
qui va faire une quantité de mal énorme. Et Dieu va décider aussi de transporter en exil le royaume de Juda. Ce qui arrivera par le roi Nebuchadnezzar, qui va amener le peuple à Babylone. Donc, le royaume du Nord va être transporté en Assyrie, qui se trouve par là. Le royaume du Sud va être transporté à Babylone, qui se trouve par ici. Nous reprenons maintenant, nous en étions restés. Élie va appeler Élisée. Nous lisons le chapitre... Nous sommes restés au chapitre 19. Et nous lisons les versets 19 à 21. Là, nous voyons que Élie a été encouragé de nouveau par l'Éternel. Il va remonter depuis le Sinaï jusqu'en Israël. Il obéit tout de suite à Dieu. Et il va trouver Élisée. Nous voyons là qu'il lui jette son manteau sur lui. Nous savons qu'il avait un manteau de mouton. Et symboliquement, cela signifie qu'il va transmettre son service de prophète à Élisée. Ceci ne va pas arriver tout de suite. Mais Élisée comprend très bien qu'il va devoir continuer ce service de prophète. Il y avait donc déjà une préparation que Dieu avait faite dans le cœur d'Élisée. Ce qui est la même chose que pour tout serviteur de Dieu encore aujourd'hui. Avant que Dieu demande un service, il prépare. Le serviteur étudie la parole de Dieu. Il passe du temps à prier. Avec d'autres fidèles
pour Dieu.
Et
à un moment donné, le service prend une dimension concrète. Là, nous ne voyons pas encore Élisée qui va prophétiser. Mais il va commencer par servir Élie. Ça veut dire qu'il va l'accompagner. Il va l'aider à préparer ses affaires. Il sera dans sa proximité pour comprendre comment Dieu lui parle. Et ça va le former pour le jour où il devra continuer ce service. Maintenant, nous passons au chapitre
20.
Il y avait souvent la guerre entre la Syrie et le royaume du Nord.
La Syrie avec Damas et le royaume du Nord. Syrie et Damas, au Nord.
Le roi de Syrie s'appelle Ben-Hadad. Nous pouvons lire au chapitre 20, versets 2 et 3.
Vous avez dit?
Alors là, nous voyons qu'il y a le roi de Syrie se sent très fort. Il vient pour assiéger la ville capitale de Samarie. Il prend avec lui plusieurs autres rois de la région. Et il est très exigeant. Il dit à Akab, je veux ton argent, ton or, ta femme, tes fils. Alors Akab est dans la détresse parce qu'il n'a pas des forces suffisantes pour s'opposer. Nous n'allons pas lire tout le détail. Mais nous voyons que Dieu n'oublie pas Israël. Et puis, il va les aider à se sortir de ce problème. Les Syriens sont très nombreux. Et Akab et le peuple, les fils d'Israël, on le voit verset
15.
Il n'était pas beaucoup. Il y avait
232
chefs et 7000 hommes derrière. Mais Dieu permet une grande victoire. Des fils d'Israël contre le roi de Syrie et ses alliés. On voit
au
verset 21 qu'il inflige aux Syriens une grande défaite. Lisons ensuite les versets 29 à
30.
Alors il va le poursuivre et nous voyons qu'ils vont tuer 1000
Syriens.
Il va le poursuivre jusqu'à Afek, une ville syrienne. La muraille ne tient pas et tombe encore sur 27 000 hommes qui restaient. Le roi Ben-Hadad, il est vraiment battu complètement. Et Akab a la possibilité de le tuer. C'était l'ordre de l'Éternel de l'éliminer complètement. Mais malheureusement, les Syriens qui restaient disent, essayons de faire alliance avec lui, de lui demander de la clémence. Ils vont vers Akab et lui disent, mais je suis ton frère. Et puis il propose une alliance que Akab accepte. Malheureusement, ça c'est une erreur grande de Akab. Il ne devait pas faire alliance avec le roi. Nous lisons la conséquence au verset
42.
Le roi Ben-Hadad avait été donné entre les mains d'Akab pour le tuer comme Dieu voulait. Le roi Ben-Hadad, le roi de Syrie,
devait
être... Mais Akab n'obéit pas, il a cette grande victoire miraculeuse que Dieu a permis. Mais il fait une alliance avec ce roi idolâtre. Et c'est une grosse erreur de faire alliance avec ce roi idolâtre. Et Dieu l'avertit par un des prophètes que ça va lui, un jour, ça va lui coûter la vie. Que le peuple va être battu. Alors il retourne à Samarie triste et irrité. Malheureusement, pas de repentance. Ça parle aussi pour nous aujourd'hui. On ne peut pas faire alliance avec l'ennemi. On doit avoir une distance. Ne pas s'associer au mal. On retrouve ça depuis le début jusqu'à la fin de la Bible. Un enseignement qui est valable aujourd'hui encore. Ne pas associer les enfants de Dieu avec le mal. Au chapitre suivant, on voit Akab qui a un palais dans une ville qui s'appelle Jizréel. Juste à côté de son palais, il y a quelqu'un qui s'appelle Naboth qui a une vigne. Et il aimerait l'acheter parce que ça permet d'agrandir son palais. Mais Naboth refuse parce que c'est une ville qu'il a depuis ses ancêtres dans sa famille qui veut garder. Akab est irrité. Il en parle à sa femme. Malheureusement, il a cette femme Jézabel idolâtre.
Il
lui donne un conseil très mauvais. Elle va préparer un complot de fausses accusations contre
Naboth
qui sera mis à mort. Et alors, il va prendre cette vigne de force. La situation est grave et Élie va être envoyé par l'Éternel. Lisons au verset 27-29, qu'est-ce qu'il va dire
Chapitre 21, verset 27.
Chapitre 21, verset 27.
vence à ma communauté, je suis en train de me
Nous n'avons pas lu ce que Élie a dit à
Akab.
Chacun peut le lire dans le paragraphe qui a précédé ce que nous avons lu. Mais en résumé, Élie a dit à Akab, je vais, à cause de ce que tu as fait de mal, je vais ôter ta postérité. Tous les descendants mâles vont mourir. Sa descendance royale ne va pas subsister. Et il y a une prophétie aussi contre Jézabel, sa femme, qui a donné l'idée de tuer
Naboth.
Elle va mourir précisément à Jézreel, à cet endroit.
Et
elle-même et les autres descendants, eh bien, il y en auront qui vont mourir et les chiens. Les oiseaux des cieux vont manger le reste. Quelque chose de grave parce que Jézabel avait fait tellement de mal et des conséquences pour leurs enfants. Mais comme nous venons de lire quand Akab a entendu ça, il a compris que c'était véritable de la part de Dieu.
Et
il s'est humilié. C'est pour cela que Dieu a décidé de faire venir le mal après lui. Ensuite, il y a une guerre qui va commencer pour reprendre une ville qui était à l'est, une ville d'Israël, Ramoth de Galad, qui avait été prise par les Syriens, et Akab veut la reprendre. Il va s'associer avec le roi Josaphat de Juda.
Josaphat,
on le voit au verset 22, au chapitre
22,
fait alliance avec Akab, accepte de faire la guerre aux Syriens ensemble, ce qui est une erreur. Josaphat est un roi fidèle qui est pieux.
Josaphat,
il ne devrait pas faire alliance avec Akab qui est un roi idolâtre.
Et
nous voyons qu'il aurait pu en mourir. Akab va à la guerre avec Josaphat. Josaphat accepte parce que son fils a épousé une fille d'Akab. Nous voyons que les relations familiales peuvent avoir des conséquences négatives. De nouveau, nous voyons l'importance qu'un croyant n'épouse pas une non-croyante. Ou bien le contraire.
Et
et les deux rois vont partir à la guerre. Nous lisons le verset 30 du chapitre
22.
Là, nous voyons Akab qui veut être malin. Il connaît cette prophétie de la part de Dieu qui
est,
qu'il y aura du mal qui va venir sur lui. Il a peur de cette bataille, d'être tué. Alors il va se déguiser comme s'il était un simple soldat. Mais il dit à Josaphat, toi tu vas mettre ton uniforme de roi. De roi à la bataille. Ils avaient un habit particulièrement décoré pour montrer le chef de l'armée, le roi de Juda.
Si
les Syriens vont chercher le roi, ils vont le tuer lui et pas moi.
Il
pense être très malin.
Et
effectivement, les Syriens, ils on ne va pas lire le détail, vous pouvez le lire pour vous. Les Syriens vont se concentrer sur la mort de Akab. Ils vont le chercher et ils vont aller après Josaphat. Et Josaphat a failli être tué parce qu'il a vu qu'il avait beaucoup de force contre sa personne. Mais au dernier moment, les Syriens ont vu, ah, mais ce n'est pas Akab, c'est Josaphat. Alors ils l'ont laissé pour chercher Akab. Mais ils ne l'ont pas trouvé parce qu'il était déguisé comme un soldat normal. Maintenant, nous lisons un verset qui montre qu'on ne peut pas échapper à Dieu. Nous lisons le verset 34. Là nous voyons qu'il y
a
alors là on voit qu'on ne peut pas échapper parce qu'il y a un soldat syrien qui tire un petit peu en l'air comme ça
en
direction de l'ennemi. Ça touche Akab. Akab, il avait une cuirasse, une protection pour les parties vitales. Mais la flèche va juste arriver entre les parties. Et va le blesser mortellement. Il
ne
va pas mourir tout de suite. Il va mourir le soir. Et puis on va laver son char qui était plein de sang. Et selon la prophétie au verset 38, on voit que les chiens vont encore lécher le sang. On
n'échappe
pas à la prophétie que Dieu a donnée. Et Josaphat qui avait fait cette mauvaise alliance, Dieu l'a préservé, mais il a eu très peur parce qu'il a failli mourir aussi. Ensuite, nous continuons et nous arrivons maintenant au deuxième livre des rois.
Je vous rappelle qu'aussi la bus, il y a un résumé du deuxième livre des rois. Qui permet de voir les aspects principaux avec les chapitres. Les différents rois d'Israël et la chute d'Israël. Et puis ensuite, depuis le chapitre 18, les différents rois de Juda et la déportation. Pour ceux qui ont le syllabus, ils peuvent regarder, c'est au début. Et nous continuons donc avec le deuxième livre des rois au chapitre 1er. Le successeur de Akab est un roi qui est mauvais. C'est Akazia qui va chercher à faire mourir Eli.
Akazia, yeyempinje ulonda mumvite bwashive Eli.
Il va envoyer des soldats pour prendre Eli.
Lutu mabasalai banyine yaino nununtu akile mumbiji wa Eli ya.
Il envoie une première troupe contre Eli. Nous lisons 2 rois 1 verset 9 et 10.
Utuma jengombe ja kumpala ja basalai dito ayikubala mu chapitre wa kumujilu verse wa 7 na 10.
Nous avons eu la question hier avec le feu du ciel. Cela fait probablement référence à cet épisode. Il y a un premier officier avec 50 soldats qui vient, qui lui donne un ordre de descendre. Mais c'est le feu du ciel qui va descendre, qui va le brûler, lui et ses 50 soldats. Le roi Akazia n'écoute pas. Il lui envoie de nouveau une troupe avec 50 soldats, qui va de nouveau recevoir le feu du ciel et les brûler. Akazia ne comprend toujours pas et envoie une troisième troupe. Cette fois, l'officier, il a peur de ce qui va arriver. Deux troupes qui ont été brûlées, il se dit, moi je ne veux pas être brûlé. Il vient vers Eli parce que c'est l'ordre du roi. Mais il lui dit pas descend cette fois. Il se met à genoux. Et il supplie pour sa vie et la vie de ses 50 soldats. Parce qu'il reconnaît que Dieu peut faire descendre ce feu à nouveau. Alors le feu ne va pas descendre. Parce qu'il s'est humilié, il s'est mis à genoux devant Eli, qu'il reconnaissait être un prophète de Dieu. Il y aura une prophétie, nous pouvons lire le verset 16 pour le roi Akazia. Premier de 2 rois.
Ah oui.
Là, nous voyons qu'il y a une prophétie pour le roi Akazia qui consultait toujours
Baal.
Il était malade et il voulait savoir s'il allait vivre. Mais au lieu de demander à Dieu, il demande à
Baal.
Et la réponse de Dieu, c'est qu'il ne va pas, il ne va pas sortir de cette maladie. Au chapitre 2, nous voyons le transfert du ministère d'Élie à celui d'Élisée. Les prophètes Élie, Élisée comprennent que cette transmission est la fin de la vie d'Élie, elle va être très spéciale. Élie va passer dans différentes villes. Il va passer à Gilgal, à Bethel. Il va passer à Jéricho, il va traverser le Jourdain. Et Élie dit à Élisée, laisse-moi seul pour cette fin de vie. Mais Élisée ne va pas le laisser seul. Il désire voir ce dernier moment qu'il sait être extraordinaire. Au verset 11, nous pouvons lire du chapitre 2. Alors nous voyons Élie qui monte au ciel dans un tourbillon avec un char de feu envoyé par Dieu du ciel. C'est quelque chose d'unique et d'extraordinaire. Que Dieu a permis pour récompenser son serviteur Élie. Élie avait été très fidèle malgré les dangers. Nous avons vu qu'il avait une vie de prière très intense. Et il était obéissant aussi dans tout ce que Dieu lui a dit de faire. Et Dieu lui donne cette fin de vie extraordinaire de ne pas passer par la mort. Mais d'être enlevé directement au ciel. Ça nous rappelle Enoch avant le déluge. Nous ne savons pas beaucoup de lui. Mais nous savons qu'il a marché avec Dieu et que tout à coup il a disparu parce que Dieu l'a pris. Et ça parle aussi de l'Église. On ne sait pas dans combien de temps, peut-être un temps court, et le Seigneur va nous enlever aussi d'un coup, on va disparaître. Tous les vrais croyants, par exemple, si le Seigneur il revient dans quelques minutes, et nous allons disparaître dans un instant. Et tous les vrais chrétiens de cette ville et du monde entier. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Juste avant que Élie parte au ciel, Élie lui dit à Élisée, demande quelque chose. Alors Élisée ne va pas demander une petite chose. Il
ne
demande pas, j'aimerais un palais avec des bains magnifiques. Il ne demande pas des troupeaux pour être très riche. Il va demander au verset 9, nous n'allons pas le lire, mais je le cite.
Une
double mesure de ton esprit sur moi. Et il demande alors l'action de l'Esprit de Dieu d'une manière puissante. Et Élie a dit, c'est difficile.
Elle est du moins mon galant.
Tu dis l'ombre. Mais si tu me vois partir, tu auras ça.
Et
nous allons voir maintenant quelques éléments de la vie d'Élisée. Juste avant, quelques mots de ces villes qui ont été visitées par Élie plus Élisée.
Élie
n'a pas choisi ces villes par hasard. Il a commencé par Gilgal. C'était à l'entrée quand le peuple d'Israël avec Josué est venu pour prendre possession du pays. Il fallait se séparer du mal pour Dieu. C'est là qu'il y avait eu la circoncision qui symbolise cela. Puis il a été à Bethel, qui parle de la communion avec Dieu. Puis il avait été à Jéricho, qui parle d'une grande victoire de l'obéissance du
peuple.
Et enfin, il a traversé le Jourdain, qui est une sorte de d'héritage à travers la mort. Alors les chapitres suivants vont nous parler du ministère d'Élisée. Si Élie a été caractérisé par un ministère où il a dû annoncer des jugements, le ministère d'Élisée a eu un autre caractère, beaucoup plus un caractère de grâce envers le peuple. Et Dieu a permis qu'il fasse de nombreux miracles de bonté et de grâce de la part de Dieu. Par exemple, on lit au chapitre 4, le verset 3 et 4.
Ya usome jasu uji bakwe jamuna mtu usome jikumbane jabu mungu uwele mtu uwele mtu uwele ne bana de ibanine mwishile chidi
allez-y 4 encore
bana de ibanine. Ainsi le Sidi, au pomole le mani, média soit vivant.
Alors il y avait des prophètes qui étaient dans une grande pauvreté en Israël. Nous savons que l'idolâtrie règne, il y a Akab est mort, mais il y a encore sa femme Jézabel. Une femme des prophètes voit son mari mourir. Elle dit à Élisée, mais je n'ai plus rien, qu'est-ce que tu ne pourrais pas m'aider? Seulement un pot d'huile. Et j'ai dû faire des dettes pour mes deux enfants. Et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants pour qu'ils soient ses serviteurs. Alors Élisée lui a dit, va prendre tous les vases que tu as, tous les pots. M'en demander à tes voisins la plus grande quantité possible. Il
ne
faut pas en demander seulement deux, trois, demande plus. Et à la fin, il dit maintenant, le dernier pot d'huile, tu vas le verser dans un autre vase. Tu fermes la porte et tu es avec tes fils et vous allez remplir tous les vases avec ce dernier vase d'huile.
Il y a
ce miracle que l'huile va se suffire à remplir tous les vases qu'elle avait cherchés. C'est donc un miracle extraordinaire. Parce que l'huile d'olive, ça a beaucoup de valeur. Alors elle a vendu les vases pleins d'huile. Elle a pu payer la dette. Elle a pu reprendre ses fils. Après, elle a rendu les vases vides à ses voisins. Et elle a eu de la réserve d'huile aussi pour acheter du pain pour manger pour elle. Voilà un miracle de grâce de
l'Éternel.
Il y en a eu bien d'autres. Il y a aussi une femme de Sunem qui était riche, qui a reconnu que Élisée était un homme de Dieu. Elle n'avait pas d'enfant, mais elle a donné l'hospitalité et elle a eu un enfant. Parce que Élisée a compris qu'il y avait une détresse chez cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais cette femme, là, malheureusement, a eu son fils en grandissant qui a eu des forts mal de tête. Avec le danger de mourir, il est tombé dans l'inconscience. Et c'est, chacun peut lire dans ce chapitre 4, on voit qu'ensuite, Élisée produit ce grand miracle de la part de Dieu que le fils va revivre. Au chapitre 5, nous voyons l'histoire de Naaman le Syrien. Nous voyons que c'était un officier de la Syrie qui était lépreux. Un homme puissant et riche, mais il ne sait pas comment se guérir de cette grave maladie. Lorsque les Syriens avaient fait des attaques contre Israël, ils avaient pris une petite servante
qui
était une jeune fille croyante. Et nous voyons qu'elle n'était pas amère contre ce chef des officiers
elle
était servante de sa femme. Elle avait entendu parler de Élisée. Elle a dit, je connais quelqu'un qui pourrait sûrement vous guérir. Et Naaman, il écoute sérieusement cette petite fille. Il va venir vers Élisée avec un grand char, des chevaux et de l'argent, des cadeaux. Mais Élisée ne prend même pas la peine de sortir de sa maison. Lisons le chapitre 5, les versets 9 et 10.
Chapitre 8, nous venons sur la cité.
Wowe mayi muyaje na misamwa na musekete musuni webe ni ulwe kuti kabisa wewe ni uyikande mwaka ne.
Alors Élisée, il ne sort pas alors que devant sa petite maison de prophète il y a un grand général avec des chars, beaucoup de soldats et puis encore des présents d'or, etc. Le général Naaman, il pensait qu'il allait sortir, peut-être lui frotter les mains, le toucher ou comme
ça.
Il s'attendait à des cérémonies, de rituels pour le guérir. Mais Élisée, il ne sort même pas, il envoie son serviteur et lui dit, il faut te plonger cette fois dans le Jourdain. Alors le général se fâche, est-ce que tu te moques de moi? Le Jourdain, il est connu pour avoir des eaux en partie pleines de terre et pas toujours très claires. Alors que chez eux en Syrie, ils ont aussi des rivières et qui sont encore avec des eaux plus pures. Il dit, je pourrais très bien me laver dans ces eaux-là-bas. Et il est sur le point de se repartir tout fâché. Mais ses serviteurs lui disent, mais écoutez, si on est venu jusqu'ici, ça vaut la peine d'essayer. Heureusement, cet officier écoute ses serviteurs. Il va se laver dans le Jourdain et il devient pur, sa peau redevient nette. La maladie est partie. Il revient, il veut donner des grandes récompenses à Élisée. Mais Élisée refuse. Il lui dit, alors Naaman dit, alors je vais arrêter de faire des sacrifices à mon idole, à des autres dieux en Syrie, mais seulement je sacrifie à l'Éternel.
Naaman
a compris qui est le vrai Dieu. Il a même compris qu'il y aura un conflit dans sa profession de général. Il y a des moments où il doit accompagner le roi pour adorer des faux dieux.
Que
ça va créer un conflit. Et il dit à Élisée, excuse-moi, pardonne-moi quand je serai obligé d'accompagner le roi dans une circonstance spéciale. Élisée comprend, il lui dit pas en paix. Voyons les conflits que nous pouvons des fois avoir dans notre travail aussi. Nous devons chercher à être fidèles au Seigneur. D'avoir cette même conscience exercée comme a eu
Naaman.
Ensuite, on ne va pas la lire, ça nous prendrait trop de temps, mais le serviteur de Élisée qui s'appelle
Géasi,
il dit, c'est trop bête, mon maître, il ne veut même pas accepter de l'or, des beaux manteaux, des belles choses. Alors quand Naaman est reparti, il va courir derrière lui. Derrière le dos de
Élisée.
Il va dire un mensonge. Il va dire, on a reçu de la visite, on a quand même besoin d'un petit peu quelque chose. Alors Naaman va lui donner rapidement de l'argent, des talents d'argent. Et puis, il va lui donner encore des habits. Certainement des beaux habits. Et Géasi va le cacher. Chez lui. Mais Élisée a compris de la part de Dieu ce qu'il a fait. Il va lui poser la question. Et il va pas dire la vérité. Il répond, mais je suis allé nulle part. Malheureusement, Élisée doit lui prononcer un jugement sur lui qu'il aura la lettre de Naaman. Et depuis ce moment, il va devenir lépreux et sa descendance aussi. Au chapitre 6, il y a encore d'autres miracles qu'a fait Élisée. Mais nous ne pouvons pas
Libala. Je recommande la lecture de chacun de voir comment Dieu a permis ces miracles extraordinaires. Mais nous ne pouvons pas entrer plus en détail là-dessus. Il y aura notamment les Syriens qui vont de nouveau attaquer une délivrance par Élysée. Malheureusement, cela ne va pas mieux. Ensuite, nous arrivons au chapitre 9. Et puis, nous voyons qu'il y a Jéhu qui avait été déjà oint par avance comme roi par Élie, qui va prendre le pouvoir. Il va tuer toute la maison d'Akab. Ce sont des chapitres où il y a beaucoup de violence. Il va tuer
Jézabel,
qui va être jeté en haut de son palais. Par la fenêtre, ils vont la... Elle va mourir et aussi les chiens, ils vont manger ses restes. Comme la prophétie avait été. Il va tuer tous les descendants d'Akab, les nombreux enfants qu'il avait. En même temps, il va tuer le roi de Juda qui était venu parce qu'il était avec, de la parenté avec
Akab.
Il va même tuer ses frères.
Qui est devenu là,
cette mauvaise association. Et il va devenir lui-même roi en Israël. Il va tuer aussi tous les prophètes de Baal avec une ruse. En cela, il obéira à Dieu. Mais malheureusement, il n'a pas enlevé les deux veaux d'or qu'il y avait à Don et à
Bethem.
Donc un règne de Jéhu qui a deux aspects. Il a fait la volonté de Dieu avec beaucoup, malheureusement, de violence qui nous est décrite dans ces chapitres. Mais il n'a pas complètement enlevé l'idolâtrie. Jézabel avait une fille qui s'appelait Athalie.
Jézabel
avait épousé le roi de Juda. Ce roi de Juda qui va mourir aussi. Alors elle voit son fils Joram qui est mort par Jéhu en allant visiter le roi de d'Israël au nord. Elle prend l'occasion pour prendre le pouvoir. C'est une méchante reine, elle a appris de sa mère Jézabel toutes les idolâtries.
Et
elle va tuer tous ses petits-enfants. Elle va prendre cette occasion que son fils est mort pour prendre elle-même le pouvoir, elle va régner sur cette année, pendant cette année. Mais il y a un enfant qui va réchapper un petit bébé d'une année. Il va être caché par le sacrificateur Jehoiada. Il va être dans les bâtiments du temple et on ne saura pas que c'est le dernier rescapé de la lignée de David. Et quand il a 7 ans, le sacrificateur Jehoiada, qui est très âgé, il a environ une centaine d'années, il va organiser le couronnement de ce jeune roi de 7 ans d'une manière très habile et sûre. Et la reine Athalie va être mise à mort.
Ce roi Joas, au début, va être fidèle à l'Éternel. Il va organiser la restauration, la réparation du temple qui avait été abîmé. Mais quand le sacrificateur Jehoiada va mourir, très âgé, à 130
ans,
il va malheureusement écouter des hauts fonctionnaires qui le conseillent de devenir idolâtre.
On
voit qu'il était faible et que sa foi vivait par l'intermédiaire du grand sacrificateur. Ça nous parle aussi des enfants qui grandissent dans les familles chrétiennes. Et un jour, quand ils doivent prendre eux-mêmes les responsabilités, parfois on les voit s'éloigner de Dieu. Ils n'avaient pas un contact profond avec l'Éternel. Puis vont suivre différents rois en Israël qui seront tous mauvais. Jusqu'au chapitre 17 où on voit qu'ils vont être déportés en...
En
Assyrie, c'est une puissance
qui
se trouve à l'est de la Syrie et qui devient toujours plus grande. Le royaume du nord, les 10 tribus vont être dispersées, vont être amenées à
Ninive.
Et le roi va amener une autre population dans cette région-là,
que l'on va
appeler les Samaritains, qui seront là au temps du Seigneur. Ce sera un mélange de juifs et puis de cette autre population, donc un mélange de culte idolâtre et de souvenirs de l'Éternel. Depuis le chapitre 18, nous voyons seulement les rois de Juda, puisque le royaume d'Israël est terminé. Nous lisons au chapitre 18 les versets
3
et
4.
C'est le roi Ézéchias.
Wakumusha bitendelele ya kaji unuku kwa mikuna, wakashungula makumushi akatendelele kwa wakatapila bashe la panchi, wakamutula minyoka wa chama cha mitaku wakenda moshe walangwa.
Donc nous voyons. Merci. Là nous voyons que il y avait beaucoup d'idolâtrie aussi dans le royaume de Juda. C'était un bon roi qui a mis sa confiance en Dieu, qui a détruit l'idolâtrie même de ce serpent de Moïse. À l'origine, c'était quelque chose de bon.
Et
ça avait été tourné en idolâtrie. Ça nous parle aussi des fois des images qu'il y a ou des statues qu'il y a dans les églises d'autrefois.
qui avait bonne intention de raconter l'histoire de la Bible,
mais
qui sont devenus avec le temps des idoles. Nous allons pas voir plus en détail l'histoire de ce roi. Son histoire est aussi rapportée dans le livre du prophète Ésaïe. Ça fait partie du programme de la FBS de cette année et le frère Michel en dira quelque chose. La puissance d'Assyrie qui est venue attaquer le royaume du Nord a aussi attaqué Jérusalem. Mais Ézéchias a eu confiance en Dieu et il y a eu une grande victoire. Dieu a envoyé son ange pour tuer l'armée pendant la nuit. Et ça a été une grande défaite pour les Assyriens. Ézéchias était malade et a demandé un prolongement de vie à Dieu.
Et
Dieu lui a donné 15 années puisqu'il lui avait prié. Ça nous pose quelques questions parce que pendant ces 15 années, il va montrer tous ses trésors au roi, aux envoyés du roi de Babylone. Et nous savons que pas beaucoup plus tard, le roi de Babylone va se souvenir peut-être de tous ses trésors.
Ils
vont prendre Jérusalem et emporter ses trésors. Aussi, pendant cette période, il aura un fils qui va devenir roi, qui s'appelle Manassé. Probablement le pire roi de l'histoire de tout le peuple d'Israël, qui va accumuler des horreurs d'idolâtrie. De sorcellerie, de profanation du temple, qui va même tuer son fils en sacrifice. Ce que demandent des fois les idoles. Et cela fera décider l'Éternel d'envoyer aussi Juda en exil. Il va se repentir tout à la fin de sa vie. Mais il aura fait tellement de mal que Dieu ne pouvait pas passer simplement par-dessus. Il faut changer la batterie. Un instant, s'il vous plaît. Nous arrivons de toute façon à la fin.
Oui, parce qu'il nous reste que 5 minutes.
Après tout, il faut voir un Zambia à tout fait. Il faut voir un Zambia à tout fait. Oui, moi, là, le point, nous, un Zambia à tout fait.
Alors, on ne trouve pas le récit de la fin de sa vie avec la repentance dans le livre des rois. Cela nous est rapporté dans le livre des chroniques. Chacun qui est intéressé peut lire dans le deuxième livre des chroniques. Deuxième livre des chroniques. Au chapitre
33.
Mais après, avant la déportation, il y aura encore un bon roi.
Pardon?
Il y aura encore un bon roi,
Josias.
Ça montre que même si on grandit dans un cadre très mauvais, chacun est responsable de chercher l'Éternel. Et que Josias n'a pas voulu suivre la voie de son père méchant. Il y a eu un réveil et ils ont redécouvert le livre de la loi.
Ils vont chercher aussi la pensée de Dieu chez une prophétesse qui s'appelle Hulda. Lisons encore au chapitre 22, le verset
14.
Alors, nous voyons que à la lecture de la loi qui avait été oubliée pendant longtemps, le roi Josias comprend que le peuple a fait beaucoup de mal. Il va déchirer ses vêtements signe de deuil. Et il va envoyer pour connaître la pensée de l'Éternel vers cette femme prophète. Il n'est pas souvent fait mention de femme prophète dans l'Ancien Testament. Et c'était une femme de Dieu ici qui s'appelait
Hulda.
Et c'est intéressant de voir que la Bible précise
qu'ils
vont aller la trouver chez elle. Il est précisé exactement où elle habitait. Et c'est là qu'elle va révéler la pensée de l'Éternel. Que le peuple va être déporté. Mais ça ne va pas arriver au temps de Josias parce qu'il a été fidèle. C'est aussi intéressant de voir que cette prophétesse ne parlait pas en public ou dans le cadre du temple. Ni lors de cérémonies particulières. Mais la prophétiser en privé chez elle. Probablement aussi une indication de l'Esprit de Dieu, de l'action que peuvent avoir des prophètes, des femmes, dans un cadre privé. Alors Josias va faire des réformes. Mais malheureusement, ses enfants seront mauvais, de mauvais
croix.
Et c'est là que le roi de Babylone, qui est la nouvelle puissance de la région, va attaquer la ville et la prendre. Et progressivement, il va emmener le peuple à Babylone. Il y aura d'abord le roi Jéhoiakim qui était encore roi mais qui devait être soumis à Babylone. Il se révolte. Son fils Jéhoiakim va subir le siège de Nebuchadnezzar contre Babylone et le temple va être pillé de tous ses ustensiles en or. Une partie du peuple va être déportée. Puis il y aura le règne du roi Sédécias.
Il va s'endurcir, ne pas écouter Jérémie. Il disait que cela vient de part de Dieu, de la part de Dieu, qu'il ne faut pas se révolter. La ville va être prise et détruite, le temple va être brûlé. Lui-même va être déporté à Jérusalem. Et il va subir un sort terrible, on va tuer ses enfants sous ses yeux.
Il aura
ensuite les yeux crevés et il va rester en prison. La royauté est terminée à ce moment. La sacrificature est terminée. Le temple est brûlé. Et Nebuchadnezzar envoie un gouverneur qui s'appelle Gedalia.
Mais
il est encore tué par des juifs qui se révoltent. C'est une triste fin pour ce livre des rois. Le peuple a perdu la liberté, a perdu sa terre, a perdu le temple. Pourtant, tout à la fin du livre, on voit qu'il y a comme une petite note d'espérance. Parce que le roi précédent, Jéhoiakim, est sorti de sa prison et il va manger vers le roi. Comme une marque de bonté de la part de Dieu. Voilà, nous avons terminé ce sujet. Nous avons vu que les hommes ont reçu beaucoup de la part de Dieu. Malheureusement, ce livre montre que les hommes ont été incapacités à suivre la volonté de Dieu. Même le plus doué, celui qui a reçu le plus, Salomon, il a mal fini.
Et
c'est l'histoire de l'humanité en général qui est comme ça. L'homme n'a pas été capable de conserver ce que Dieu lui a donné. C'est une sorte de faillite générale de l'histoire de l'homme et du peuple choisi par Dieu. Chaque époque finit mal, chaque dispensation finit mal. Même l'histoire de l'Église, qui est résumé dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Malheureusement, à la fin, la dernière église, la Odyssée, elle n'est pas glorieuse du tout. Mais pourtant, les promesses de Dieu s'accomplissent. Les promesses de royauté vont s'accomplir en Jésus-Christ. Lui est le seul homme qui va être parfait sur la terre. Il est de la lignée royale des rois de Juda. Il est un descendant direct de
David.
Et c'est lui qui va nous délivrer du péché. Et c'est lui un jour qui va régner pendant 1000 ans à Jérusalem. Dans un règne parfait selon Dieu. Alors je cite ce verset qui est à la fin du syllabus. 1 Jean 2 verset 17. Le monde s'en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Demeure éternellement.